par Chatbot, elle s'écrit Bet Aleph. La gématria, c'est 3. Référence aux trois dernières Makot. Il reste pour cette paracha, il y a... Depuis la semaine dernière, on a lu sept premières et il en restait trois. On va voir dans la parasha de Bo. Mais la parasha de Bo, elle va très loin puisque va entrer dans, y compris dans Korban Pessah, etc. Et puis en plus, cette parasha de Bo, elle contient ce que, selon nous a parlé Rashi au tout début de Bereshit, où il nous a enseigné que la Torah aurait dû commencer justement ici dans cette parasha de Bo, même pas au début de parasha de Bo, mais un peu plus bas, chapitre Yud-Bet, je crois, où effectivement la paracha commence à Chodesh Hazeh Lachem, au début du Perek Yud-Bet. Est-ce que c'est la première mitzvah qui concerne les Bnei Israël en tant que tels? Alors, il y a déjà, dès le début, il y a des problèmes qui se posent. Ça commence comme ça. Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, viens avec moi. En principe, Bo, ça traduit souvent va, mais Bo, ça veut dire viens, en fait. Viens chez Paro. Et qui ani bâti et libo et levavadav? Parce que j'ai alourdi son cœur, c'est-à-dire j'ai rendu Paro spécialement têtu, c'est-à-dire il va pas céder. J'ai aussi donc j'ai donné du poids, j'ai donné du poids à son cœur, donc à sa volonté et à celle de ses serviteurs, afin que je puisse montrer, que je puisse dévoiler, déployer mes signes au sein de l'Égypte. Donc, il y a une fonction. D'une certaine manière, on est arrivé à un moment où, en fait, à cause du poids, à cause de la difficulté à supporter les makot, Paro va céder. Mais Hachem lui a donné de quoi résister. Alors, Rashbam dit, Boel Paro, Yanir Bati, il dit, Bechol Makot, dans toutes les makot jusqu'à présent, Lomatsinu, on n'a pas trouvé chez Odia, Kadosh le Moshe, chez Chizek et Libo. Jamais Hachem a dit à Moshe qu'il avait fortifié le cœur de Paro. Arbezot, mais dans cette maca-là, il le lui dit. Pourquoi? Parce que chez Oda Paro, chez Ouassadik, Vani, Vani, il a dit, Paro a reconnu que Hou Itbarach, donc, et Hou et Moshe, donc, selon Tzadik, Vani, Veami, Arshaim. Donc, il a déjà reconnu Paro. Il a reconnu qu'il était un rachat, que Moshe, donc, encore beaucoup, était le Tzadik. Ou Bezot Ktiv, va Yosef Lachato. Mais malgré tout, il va continuer à fauter. Le car, Ouska Klomar, qui anir Banti. Libo, le Babadav. C'est marqué plus haut, Vayarbed Libo. Il a donné du poids, de nouveau, du poids à son cœur, donc à son désir de garder les bnei Israël, de ne pas les libérer. Rashi, il n'entre pas dans ce problème. Rashi dit simplement que quand Hachem a dit à Moshe, viens chez Paro, il lui a seulement dit, viens chez Paro et avertis-le. Avertis-le, donne-lui un avertissement, que s'il continue à ne pas obéir, ça va aller moins mal pour lui. Le man shiti, alors Rashi explique ce mot de shiti, il dit simi, shehashit ani. Je vais poser, je vais mettre mes signes. Je vais marquer l'Égypte par mes signes. En fait, le Ravolbe, il dit, Rov Maaseh Adam, la majorité des actions humaines, Em Maaseh Safek, Enam Maasim Vadaim. C'est des choses qui ne sont pas complètement déterminées. Et d'une certaine manière, ça entraîne que la reine Ifchar la niche Adam bliatra. Il y en a atra où la sotte est amassée le vadaï. Mais la reine Gammoïla Chouva, qui va chez amassé ou besafek. On a déjà expliqué plusieurs fois que la Chouva, elle était possible parce que nos actions ne sont pas définitives. Et que pour que les actions soient définitives, il faut qu'on persiste et on signe, comme on dit en droit. Persister et signer. Et donc, du coup, puisque l'action n'était pas vraiment définitivement faite, je peux revenir dessus et ça permet la tchouva. Mais de la même manière, on ne peut donc pas non plus sanctionner quelqu'un pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est pour ça que, par exemple, pour pouvoir sanctionner quelqu'un, donner des makot ou le condamner à mort, etc., il faut ce qu'on appelle une hatra'a. Il faut dire à la personne, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est une transgression, tu transgresses tel et tel verset, tu encours telle et telle sanction, et si c'est une peine de mort, on doit lui dire même quelle sanction il encourt. Et lui doit répondre, c'est-à-dire, effectivement, avec tout ce dialogue, a pour but de faire de lui quelqu'un qui assume complètement ce qu'il va faire. Et parce qu'il l'a parfaitement assumé, alors, et alors seulement, on peut le sanctionner. Et donc ici, pourquoi est-ce que Rashi dit, viens chez Paro et avertis-le, pourquoi il faut l'avertir? Il faut l'avertir parce que je vais le sanctionner, mais pour ça, j'ai besoin qu'il soit averti de telle sorte que ce soit bien clair et net qu'effectivement, il ne veut pas libérer les bnei Israël. Le Ramban, sur ce qui rebattait Libo, le Ramban dit, Odia à Kadosh Baruchou le Moshe, Chehu ichbid et libam ata. Moshe, Kadosh Baruchou dit à Moshe Rabbeinu, que maintenant, pour ce qui va suivre dans les trois makot qui restent, Hachem a endurci son cœur à lui, à Paro et à ses serviteurs. Et il explique à Moshe pourquoi il fait ça. Le man, Shachit Bekirbam, Eleaotot Asher, Ani Chafetz Laasot, Bahem, Sheyedu Mitzrayim et Gvurati. Et puis le Ramban dit, il ajoute, parce que dans le passouk lui se termine ici, mais il y a un passouk juste après, qui commence par ou le man, et aussi afin que. C'est ça. Il s'adresse ici au Bnei Israël. Le man te s'appelle Bozne Bincha ou Ven Bincha. Aux oreilles de ton fils, de ton petit-fils, et ta chère Italalti Bemisraïm, combien je me suis moqué en fait de l'Égypte, vet ototai Asher Santivam, tu leur racontes aussi les signes que j'ai posés en Égypte, vidatem, il y a tout un jeu ici, on passe du singulier au pluriel, etc. Vidatem, et vous saurez. Qui Ani Hachem. Vous saurez, alors, est-ce que eux aussi, les Bnei Israël, ce qu'on veut, c'est qu'ils sachent que Akadosh Baruch Hu est omnipotent, comme pour l'Égypte? Non. Vidatem, qui Ani Hachem. Les Bnei Israël, c'est une autre leçon qu'il leur est donnée, qui contient peut-être aussi celle de qui est donnée à l'Égypte, mais pour les Bnei Israël, il y a autre chose. Hachem veut que les Bnei Israël sachent qui Ani Hachem. Vous vous souvenez, Ani Hachem, dans les parashiot précédentes, Hachem avait dit, enfin, Rashi a expliqué que ça voulait dire, je suis fiable, on peut me croire que je donne une bonne récompense à ceux qui font, ceux qui marchent devant moi, donc ceux qui font mes mitzvot. Mais en quoi est-ce que les Bnei Israël vont apprendre cela des Makot? A priori, on ne voit pas ça des makot. Des makot, à moins qu'on dise qu'ils vont voir que quand on. Ah, je vois la claire. Que quand on ne suit pas les règles d'Hachem, alors on est sanctionné. Est-ce qu'on peut en déduire que quand on les suit, on est récompensé? A priori, ça va ensemble. Ce sera Réonèche. Alors, le Ramban, dans son commentaire, il commente Veod kedesh et saper ata vechol Israël le dorot abaim koach maasai. Donc, le Ramban, il a rendu compte de la difficulté qu'il y a dans le texte. Parce que, a priori, le texte, c'est Hachem qui parle à Moshe. Et il dit donc à Moshe où le man te saper. Et ça s'adresse à Moshe. Alors le Ramban dit effectivement, Le man te saper ata v'chol Israël, toi et aussi tous les autres juifs, en fait. Vous allez raconter pour toutes les générations à venir, donc, Koach Maasai, vous allez connaître, vous allez raconter la puissance de mes actions, V'teidu ki ani Hashem, donc la puissance de mes actions, ça c'est ce que l'Égypte aussi va apprendre. V'teidu ki ani Hashem. Et vous saurez que je suis Hachem. Alors, est-ce que c'est un pirouche? Le Ramban y continue et il dit, Vecholacher Echpots, et c'est Vachamaim Vaharetz. Je ferai ce que j'ai envie de faire dans le ciel et sur terre. Donc, quand le Ramban explique que Hachem fera tout ce qu'il a envie, alors ça veut dire plus que simplement les gens disent que, comme les gens disent, il y a une force supérieure qui gouverne, etc. Ça fait pas. Il parlait de cette force supérieure, c'est pas ça le, c'est pas Hachem, c'est pas ça le Dieu d'Israël, si vous voulez. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il joue pas au dé, comme Einstein dit, ça c'est pas, c'est toujours pas le Dieu d'Israël, en fait. C'est pas non plus une force absolue, etc. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Partout. Ciel et terre. C'est ça que ça veut dire. Fait ce que je veux. C'est-à-dire, il y a la volonté d'Hachem, c'est ça qui gouverne le monde. C'est pas le fait, il s'agit pas simplement de reconnaître qu'il est tout-puissant, etc. Mais qui fait vraiment ce qu'il veut. Les choses dépendent ultimement de la volonté d'Hachem. Pour ce qu'il voudra, et... c'est ça, ça va être dit en toutes lettres. Si le Ramban le dit directement, d'entrée de jeu en quelque sorte. Et il le dit, il dit ça c'est ce qu'on doit raconter à nos enfants. Bon, tout ça c'est dans le man te saper, afin que tu racontes. Alors, en plus, il y a quand même un terme assez étrange. Il faut aussi raconter, il faut raconter, ta chère, it'alalti de Mitzrayim. Rashi dit, it'alalti, sahakti. J'ai joué, je me suis moqué. J'ai joué avec l'Égypte. Et le Rambandi, effectivement, j'ai joué. Je joue avec lui. Je endurcis son cœur, puis ensuite, et ensuite je le sanctionne. C'est un petit jeu, là. Parce qu'Hachem envoie une maca. Pharaon, il supplie que on arrête la maca. Il dit, eh bien, je ferai ce. Alors, et il dit, voilà, Ani ve'ami Arshaim, moi et mon peuple, on est les méchants. La maca s'arrête, comme il l'a demandé. Et de nouveau, il revient à ce qu'il était avant. Comme s'il se souvenait pas de l'engagement qu'il avait pris de libérer les Bnei Israël. Encore une maca, et encore une fois, et encore une fois. C'est vraiment un jeu. Rachel me dit, c'est quoi ça? C'est un jeu, mais... D'une certaine manière, il joue avec Paro. Paro se prend pour un empereur. Il dit, je ne renverrai pas, comme s'il avait le pouvoir de ne pas renvoyer. Et maintenant, le Ramban a dit que Italalti veMitzrayim, il avait expliqué que le jeu, c'est j'endurcis son cœur, puis ensuite, veOseh neKamot. Et ensuite, je me venge de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La neKama, il ne faut pas traduire ça par vengeance. Ce n'est pas qu'il reçoit des makot pour ce qu'il a fait. La nekama, c'est la destruction du mal, en fait. Ça veut dire que quand du mal a été fait, on ne peut pas faire comme si ça n'a pas été fait. On ne peut pas laisser passer les choses, laisser passer le mal. Donc ça, c'était la mission, les termes de la mission qu'Hachem a donné à Moshe, évidemment à Aaron aussi, puisque, comme on sait, chaque fois que Moshe allait chez Paro, il allait toujours avec Aaron, puisque c'était Aaron qui allait parler. Ah, aussi. Quoi? Simcha aussi. Bien, on fait entrer aussi. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Là, bien. Okay. Oui. Le pion. Il est un pion. Oui, il faut lui dire merci. Mais c'est Hachem qui l'a donné, qui l'a mis dans cette situation-là. Il a fait du mal. Il fait du mal. Lui, il ne le voit pas comme une occasion donnée à Hachem. Il le voit comme. Il s'imagine qu'il résiste à Hachem. Alors, Vayavo, Moshe et Aaron et le Paro. Donc, Moshe et Aaron vont chez Paro et ils lui disent, Ko amar Hashem, Elokea Ibrim. Ainsi a parlé Hashem, le Dieu des Hébreux. Admatai me'anta la'anot mipanai. Shlachami vi'avduni. Donc, il lui dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu refuseras de répondre? Je t'ai ordonné de renvoyer mon peuple pour qu'il me serve. Alors, c'est très étrange parce que le mot la note pourrait le traduire répondre, oui, mais Rachid dit pas comme ça. Rachid dit la note, que targumo. Rachid il s'appuie sur le targum, il traduit l'id kanaa ou mikzerat ani. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce que tu refuseras d'être un pauvre à mes yeux. Donc quelqu'un qui a besoin de moi, en fait. Imaginez-vous, quelqu'un va venir, et il va proposer, je ne sais pas, au président chinois ou américain de se conduire comme un pauvre devant le Créateur. C'est clair que la réponse, ça sera un grand éclat de rire, si ce n'est pas plus. Pardon? Oui. Bon, en fait, un roi d'Israël, il a une mitzvah de Levilti, Rom Levavo, Me'echav. Il est roi, mais néanmoins, il n'a pas le droit de s'enorgueillir et de considérer qu'il est plus haut que les autres. Mais ça, c'est un issour interdit de s'enorgueillir pour le roi d'Israël. Mais pourquoi est-ce que c'est une exigence? Pourquoi on demande ça à l'empereur d'Égypte, là? Pourquoi on ne lui dit pas simplement, on renvoie le peuple pour qu'il me serve. Pourquoi lui faire du moussard? Jusqu'à quand est-ce que tu refuseras de te conduire comme un pauvre devant moi? Bon, toute l'histoire des Makot, on ne peut pas vraiment la comprendre dans la mesure où si les Makot sont faites pour produire la sortie d'Égypte, Hachem n'avait qu'à envoyer la dixième tout de suite, terminée, ce qu'il a pratiquement dit. Quand Moshe est allé pour la première fois chez Paro, il lui a dit, au nom d'Hachem, je veux que tu libères Israël qui est mon Bechor, sinon je tuerai ton Bechor. Alors, Visiblement, à cause, vous avez un autre Hezbollah que simplement de produire la sortie d'Égypte. Oui, bon. Alors, en fait, dans la. Enfin, Hachem a dit dans la vision que Abraham a eue dans Ben Abtarim, Hachem avait donc dit à Abraham que tes enfants, tes descendants, ils seraient dans un pays qui n'est pas le leur, ils seraient esclaves, etc. Mais après, je vais les libérer. Et avant, c'est marqué, Ve Gam et Agoy. Et Agoy, Asher Anochi, Asher Yavdu, Dan Anochi. Le peuple que les Bnei Israël vont devoir servir en esclave, je le jugerai, Yachem. Donc, en fait, le système, tout le processus des 10 makot, c'est le jugement. Il y a une dimension de jugement de l'Égypte et de Paro. Alors, le mot Dan Anochi, c'est la chaîne Din, oui. Le din, qu'est-ce que c'est le din? Le din, c'est une clarification. Et donc, quand on juge quelqu'un, ça veut dire qu'on va le regarder sous toutes les facettes et voir exactement qui il est. Le Sforno, il avait déjà dit dans la paracha précédente, il avait déjà dit que les 9 premières makot, ce n'est pas une sanction. La seule sanction, c'est Makat Bechorot. C'est ça le Onesh. Les autres, les 9 autres, nous servent à savoir, à être mevarer qui est Paro, à clarifier qui est Paro. Où il en est? Est-ce qu'il a confiance en Hachem, etc. Et le Maharal dit que Chazal disent que Eser Makot, Em Keneged, Aseret HaNisyonot chez Abraham. Alors le Maharal demande, mais qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre, quoi? Les 10 épreuves d'Abraham met en rapport avec les 10 makot. Et donc, il explique que les 10 épreuves d'Abraham, elles sont allées chercher qui était vraiment Abraham jusque à l'intérieur de l'intérieur. C'est la même chose pour Paro. C'est ça le dîme. Ça nous donne aussi une idée de comment est-ce que nous aussi, on sera jugés. C'est-à-dire, il s'agit de savoir vraiment qui nous sommes, jusqu'au bout des ongles, en quelque sorte. Combien on est ma'amine, qu'est-ce qu'on désire, etc. Le Ramban, il explique que les makot, elles sont données à Paro. Lui, il dit pour qu'il renvoie le peuple, mais qu'il renvoie le Shem Shamaim pas à cause des makot. Pas parce qu'il est en train de céder, parce que ça fait trop mal. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'il renvoie les Bnei Israël, l'Ishma? On s'en fiche. Est-ce que l'essentiel, c'est pas qu'ils sortent d'Égypte? On a besoin qu'ils disent Ani, Ve'ami, Arshaïm, etc. Qu'est-ce qu'on a à faire? Beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de que si les Makot elles viennent, Ramban il dit les Makot elles viennent pour faire sortir les Israël d'Égypte. Alors pourquoi est-ce que on doit aller pinailler pour savoir exactement où il en est, par où il faut l'amener à dire moi et mon peuple on est les Rechaïm, etc. Qu'est-ce que c'est ça le dîme. Hachem a dit, ce peuple, je le jurerai, je le jugerai. C'est ça que ça veut dire.
Et qu'on voit que les protections de l'échange, ça passe par la mise en garde, et la garde par haut, se confronte de façon volontaire à la volonté d'Hachem, est-ce que c'est pas par haut qu'il prononce son propre verbe? C'est pas ça qui est amené par le besoin d'Hachem.
De toute manière, c'est comme ça qu'on explique en général qu'à la fin des temps, on sera jugé par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va, c'est comme si on va faire on va passer un film et on va nous demander qu'est-ce que tu penses de l'attitude de ceux-là. Non, c'est, et là, on va dire, ah, ça, c'est scandaleux. Juste après, on va faire défiler le film de notre vie et on voit qu'on a fait la même chose. Donc, comme vous c'est-à-dire, on va être jugé par ce qu'on a dit nous-mêmes. Alors, ils lui ont dit ça, et ils lui ont dit, Kim, Maenata le Shaleach et Ami. Si tu refuses de nouveau de renvoyer mon peuple, voici, j'amène demain les sauterelles dans à l'intérieur de ton pays. Elles vont couvrir la terre. On verra pas la terre. Il y aura tellement, elles sont tellement denses, il y aura tellement, elles vont manger tout ce qui a échappé à la grêle, etc. Tout ce qui pousse va être mangé. Elles vont aussi entrer dans tes maisons, dans les maisons de tous tes serviteurs, dans toute l'Égypte. Ça va être un envahissement par les sauterelles, comme vos ancêtres les gens n'ont jamais connu et Moshe et Aaron ont dit ça et ils sont partis. Alors à ce moment-là, les serviteurs de parole lui ont dit, quand est-ce que ça va cesser? Renvoie ces gens-là qui aillent servir Hachem, leur Dieu. Est-ce que tu n'as pas compris que l'Égypte était perdue? Alors on a rappelé Moshe et Aaron. Et Paro alors a dit, allez servez votre Dieu, Hachem votre Dieu. Qui est-ce qui part? Qui va la servir Hachem? Donc Moshe a dit, Binareinu biskenin. Avec les jeunes et les vieux, avec nos enfants, avec nos garçons, nos filles, avec nos troupeaux, de petits et de gros bétail. Parce que c'est une fête pour Hachem. Alors, il leur a dit, OK, allez-y, mais vos enfants, en vérité, regardez, qui ra'a neged pnechem. Bon, je vais même si j'en vois tout ça. Vous avez le mal devant vous, quoi. Et Rachid dit, j'ai entendu autre chose, un Midrash Haggadah. Il y a une étoile qui s'appelle Ra'a, qui s'appelle le mal, quoi. Parole leur a dit, dans mon. Grâce à l'astrologie, je vois que cette étoile-là, elle vient à votre rencontre dans le désert. Et c'est un signe de, ça indique du sang et des meurtres. Et quand les Bnei Israël ont fauté avec le veau d'or, Akadosh Baruch Hu a voulu les tuer. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit dans sa prière, il a dit, pourquoi est-ce que les Égyptiens vont pouvoir dire que tu les as sortis de Ra'a avec cette étoile-là? Paro lui avait dit que cette étoile-là, on l'avait à l'horizon, en face de nous. Et du coup, Akadosh Baruch Hu a changé et il a, au lieu de changer, enfin, au lieu de les tuer, c'est-à-dire de verser du sang et de les tuer, ce qui semblait être effectivement quelque chose qui allait être en conformité avec l'astrologie, en fait, Hachem a changé le sang. C'est-à-dire, il a changé le sang en sang de circoncision. Yeshua a dû leur faire la Mila. Donc, et il a dit, Yeshua, il a dit, aujourd'hui, j'ai en quelque sorte répondu et j'ai fait honte à l'Égypte. L'Égypte a fait comme si cette étoile, elle voulait dire il y a du sang qui allait être versé, mais quelque chose qui est contre nous, qui allait nous détruire. Et maintenant, au contraire, on a versé du sang, mais ce sang est un sang de Mila, d'alliance avec Hachem. C'est un sang positif, c'est pas un sang de mort, quoi. C'est un sang de vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il n'a pas envoyé. Pas envoyé les Bnei Israël. Donc, comme on a vu, les serviteurs de Paro, ils ont dit, ça suffit, il faut céder. Et alors, bon, il a passé complètement. Il a dit, le Khuna Gvarim, que les hommes y aillent. Et servez Hachem, c'est ça que vous voulez. Les enfants, ils n'ont pas l'habitude de servir Hachem, donc vous n'avez pas de raison de prendre vos enfants avec. Et il a chassé Moshe et Aaron. Alors Hachem a dit à Moshe, étends ta main sur l'Égypte, avec les sauterelles, et ça va se passer comme on avait annoncé, que Moshe Rabbeinu a fait. Donc il y avait les sauterelles partout.
Pourquoi par
Pour l'instant, ils n'ont pas dit ici 3 jours. Ils l'ont déjà dit. Oui, au départ, c'est une des questions qu'on pose traditionnellement. Pourquoi ils ont dit 3 jours alors qu'ils allaient partir complètement? Certains disent que même 3 jours, ils ne voulaient pas laisser partir. On a voulu faciliter les choses. Même pour 3 jours, ils n'étaient pas d'accord. Donc, il a évidemment pensé, à ce moment-là, Paro a fait appeler Moshe Aaron et il leur a dit, Khatati l'Hachem, Elokechem velachem, j'ai fauté par rapport à Hachem, votre Dieu, et par rapport à vous. Et maintenant, encore une fois, priez Hachem, votre Dieu, et qu'il enlève cette mort. Et donc, ils sont sortis de la ville parce que ils sont sortis de chez Paro et ils sont même sortis de la ville. Et Akash Bokou a envoyé Ruach Yam Hazak Meod, un vent de la mer très fort, et qui a balayé les sauterelles, puis dans la mer, et il n'est pas resté une seule sauterelle dans les frontières égyptiennes. Mais malgré tout, Hachem a renforcé le cœur de Paro et il n'a toujours pas envoyé les Israël. Alors, ce qui est important ici, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette histoire des sauterelles? Alors, ce qui est très nouveau, c'est que jusqu'à présent, les makot, c'était des miracles. Les miracles, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui est contraire aux lois de la nature. Mais ici, en fait, ce qu'il y a de complètement nouveau et qui est très important, puisque finalement, Paro n'est plus complètement libre ici. Donc la démonstration, elle est surtout pour les Bnei Israël. Et pour les Bnei Israël, ce qui est important, c'est de savoir que Hachem peut sauver, comme on dit, il peut faire ce qu'il veut, ça veut dire, c'est pas qu'il peut faire des choses qui ne sont pas naturelles. Pour sauver les gens, il veut sauver les Bnei Israël, alors il va faire un miracle. Ce qu'Hachem montre ici avec les sauterelles, qu'est-ce qui se passe? Hachem, ce qu'il fait pour faire venir les sauterelles, il fait un vent qui va souffler pendant longtemps, etc. Et puis voilà, le matin, il va y avoir des sauterelles, etc. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il peut sauver en utilisant les lois de la nature. Ça n'a pas été présenté, l'histoire des sauterelles, comme un miracle. Ça a été préparé par un vent. Quand il y a effectivement une invasion de sauterelles, de criquets, etc., c'est bien ça qui se passe. Il y a un vent qui souffle, etc., normalement, et puis dans ce vent viennent les sauterelles. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les sauterelles de cette manière-là, pour que les Bnei Israël sachent que Hachem peut faire ce qu'il veut, aussi dans le cadre des lois de la nature, en quelque sorte. Il n'est pas obligé de faire un miracle. Il peut simplement sauvé par un phénomène qui apparaît comme complètement naturel. Vous voyez, c'est comme si on dit que quelqu'un est malade, il est à l'article de la mort, on dit alpiateva, après, selon les lois de la nature, a priori, cette personne ne peut pas s'en sortir. Mais on a confiance que Hachem, en fait, il pourrait, s'il le voulait, il pourrait faire un miracle. Et même cette personne qui, d'après les médecins, est complètement condamnée, cette personne pourrait bénéficier de ce miracle et s'en sortir. Mais ce qu'on nous apprend ici, c'est que la personne pourrait s'en sortir avec les lois de la nature, quelque part, sans qu'il apparaisse un miracle. Tout à coup, on a donné le médicament et le médicament a marché. C'est le médicament qui a marché. C'est le traitement qui a marché. Ah, et ce traitement, normalement, il ne devait pas marcher. Et voilà. Hachem peut faire en sorte que le traitement marche aussi. Pas seulement qu'il peut faire un miracle. Mais ça, c'est important pour nous. Alors, ensuite, il vient la maca de Rocher. Donc, Akadosh Baruch Hu va envoyer cette maca des ténèbres, en fait, parce que, bon, Et pas...
Oui.
Elle n'est pas dans la salle d'attente.
Il y avait son téléphone. Le téléphone là. Oui.
Donc Moshe a étendu son bras vers le ciel et il y a eu Rocher Afela et ténèbres sur tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que ces ténèbres, c'est pas simplement qu'on n'y voyait pas, c'est que les gens étaient littéralement paralysés. C'est un peu comme si vous avez vu les représentations de Pompéi, les gens qui ont été pris par la lave, l'éruption volcanique qu'il y a eu, celui qui avait un bras levé, ben, il a été figé dans cette situation-là. Donc il ne pouvait plus bouger même. Pas seulement qu'il ne voyait pas. L'okamo ishtartam, celui qui était assis, il ne pouvait pas se lever. Mais les bnei Israël, ils voyaient très clair partout. Alors, il a appelé Moshe, il lui a dit, allez servir Hachem, juste vous laissez vos troupeaux. Vous pouvez partir avec vos enfants, mais laissez les troupeaux. Moshe a dit, non seulement on prendra nos troupeaux, mais toi-même, tu nous donneras des animaux pour en faire des sacrifices pour Hachem. Et bien entendu, on partira avec tous nos troupeaux. Donc Hachem a endurci, renforcé le cœur de Paro. Il n'a pas été d'accord de signer le papier. Il n'a pas voulu les libérer. Et Paro lui a dit, il a dit à Moshe, Lech me alai, va-t'en de moi, mais Ishamer lecha, prends garde à toi, Al Tosef, surtout, ne reviens pas, ne reviens jamais de te présenter devant moi. Le jour où je te verrai, où tu verras mon visage, tu mourras. Alors Moshe lui a dit, Ken dibarta, lo osef od reot panecha. Je ne viendrai plus voir ton visage. À ce moment-là, Hachem dit à Moshe, il y a encore une plaie, encore un néga que je vais amener sur Paro et sur l'Égypte. Et après ça, il va vous renvoyer. Complètement. Il va vous demander de, il va vous chasser littéralement. Et puis, Hachem dit à Moshe, Daber na beozne ha'am, parle s'il te plaît aux oreilles du peuple, vishalou, et qu'il t'emprunte, qu'il demande, ish maître ou un homme de son prochain, veisha maître outa, une femme de sa prochaine, lechesevechlezav, des ustensiles d'argent et d'or. Et Hachem a donné, l'a fait en sorte que le peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Et Moshe aussi, il était considéré comme très grand en Égypte, aux yeux des serviteurs de Paro et aux yeux du peuple. Donc là, je dis juste pour mémoire ce que je vous ai déjà dit souvent. C'est que le texte ici dit que il faut emprunter, un homme doit emprunter à son prochain, son réa, et la femme aussi à sa prochaine. Et a priori, on veut dire que ils vont emprunter aux Égyptiens, aux Égyptiennes, les kélim d'or et d'argent. Alors il y a un problème, c'est que le Gaon de Vilna explique que jamais dans toute la Torah, le mot réa, réou ou réouta, jamais ça ne désigne un non-juif. Donc c'est exclu d'après ça de dire que les Bnei Israël vont emprunter aux Égyptiens directement. Alors comment on va expliquer ça? Alors vous vous souvenez, c'est nécessaire de le répéter. Je vais expliquer que ce qui s'est passé, c'est que Hachem a demandé qu'ils empruntent auprès de leurs voisines, de leurs voisins, les Juifs. Et pourquoi? Parce que la mentalité d'esclave, c'est une mentalité qui fait que, surtout quand on est torturé littéralement, on ne peut penser qu'à soi. Et ne penser qu'à soi, ça fait que il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de, il n'y a pas de relation entre les gens. Aucune relation entre les gens. S'il n'y a pas de relation entre les gens, alors, il n'y a pas de peuple. C'est des individus, c'est une masse d'individus qui sont rassemblés sur un certain territoire. C'est tout. Or, Akash Borou veut, il veut faire du clan Israël son peuple. Et pour qu'il devienne son peuple, il faut que certaines conditions soient satisfaites. Pour avoir un embryon de peuple, il faut au moins qu'il y ait des relations entre les gens. Et c'est ça qu'Hachem m'a demandé ici. Vous allez emprunter. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Ces Hébreux, quoi, d'abord, ils ont, à quoi ça sert qu'ils empruntent de l'or et de l'argent? Pourquoi est-ce qu'Hachem demande ça? Pourquoi est-ce qu'Hachem a demandé à Moshe, il lui dit, parle s'il te plaît. Hachem demande à Moshe un service. Il demande que les Bnei Israël veuillent bien le faire. Pourquoi il faut, pourquoi Hachem se met dans la position de devoir demander? C'est parce que Hachem a promis que quand on sortirait d'Égypte, on sortirait avec un grand butin. Et donc il est en train de fabriquer le butin en quelque sorte. On va emprunter de l'or et de l'argent aux Égyptiens. Et alors, et ensuite on partira. Et c'est ça le butin. Mais d'après le Gaon, on ne peut pas emprunter aux Égyptiens. Mais en fait, il y a deux choses qui se font en même temps ici. Emprunter, c'est emprunter à sa voisine, à son prochain, à son prochain. Fabriquer des liens entre les gens un peu artificiels, puisqu'ils s'empruntent des choses les uns aux autres, les uns prêtent aux autres, et donc je te prête et tu me rends et je te prête. Ça fabrique des liens. Et comme une société dans laquelle il y a des liens de confiance, de construction de la confiance, emprunter et prêter, ça implique la confiance. Donc, c'est une société plus agréable. Donc, les Égyptiens, les Égyptiennes, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ben, nous aussi, on veut en être, quoi. Nous aussi, on va participer à ça. Et donc, de facto, les Bnei Israël ont emprunté chez ces Égyptiens de l'or et de l'argent. Où les Égyptiens leur ont prêté, effectivement. Mais ils ne sont pas allés demander aux Égyptiens. C'est les Égyptiens qui sont venus demander à participer au système de j'emprunte et je, etc. Le réa auquel on s'est tourné, c'était le voisin, la voisine juive, en fait. Enfin, hébreu. Mais après, les Goïms se sont joints, les Égyptiens se sont joints. Et puis ensuite, les Bnei Israël sont partis avec ça. Ils n'ont pas rendu les biens aux Égyptiens. Parce que quand on les a chassés, ils sont partis. Et la Gemara, elle raconte qu'au temps d'Alexandre le Grand, et donc conquis tout ce monde méditerranéen. Alors les Égyptiens sont venus chez Alexandre le Grand et ils lui ont dit, écoute, nous, on revendique la terre d'Israël parce que les Juifs, les Hébreux nous ont emprunté des choses, beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Et ils ne l'ont jamais rendu. Et donc, comme effectivement, ils peuvent pas, ils pourront sûrement pas nous rendre ce qu'ils nous ont emprunté, eh bien, nous, on va saisir leurs biens, on va saisir la terre. Alors, la Gemara, elle dit qu'Alexandre a convoqué les Chachamim de l'époque, et il leur a exposé le problème, et ils ont dit, donne-nous 3 jours pour réfléchir. Et il y a un des Chachamim, un des jeunes, qui a dit aux autres, il a dit, écoutez, laissez-moi aller discuter avec les Égyptiens. Si je gagne, ben, tant mieux. Et si je perds dans la discussion, vous pourrez toujours dire que c'est un petit jeune qui s'est poussé du coude et que j'avais aucun droit de discuter. Et bien, à ce moment-là, vous direz discuter avec vos arguments. Il est allé discuter, il leur a demandé sur quoi est-ce que vous vous basez pour réclamer cet or et cet argent. Alors ils ont dit, ben, c'est écrit dans la Torah. Alors il a dit, OK, alors dans ce cas-là, moi aussi, je vais m'appuyer sur la Torah. Et donc il a dit, nous avons été esclaves en Égypte, vous nous avez réduits en esclavage, on a travaillé pour vous pendant 400 ans. On était 600 000 hommes entre plus de 20 ans, etc. En fait, et multiplication et addition. Et voilà ce que vous nous devez, Égyptiens. C'est beaucoup plus, évidemment, que ce que nous vous devons. Et donc, les Égyptiens sont partis. Donc, il a réussi son coup. La vérité, c'est que, bon, les Égyptiens ne réclament plus rien, mais c'est un peu étrange quand même que ce soit de cette manière-là qu'Hachem nous a donné des richesses, de l'or et de l'argent, dont on va ensuite avoir besoin pour construire le Mishkan. C'est un peu drôle quand même. Donc c'est une question sur laquelle il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on peut justifier cette démarche? Elle est difficile à justifier. C'est vrai que ils n'avaient pas le droit de nous faire travailler gratuitement. Enfin, en tout cas, pour la partie où ils ont exagéré, parce que la partie où ils n'ont pas exagéré, peut-être que ça faisait partie du deal. Hachem avait dit qu'on allait être esclaves et enfin, peut-être qu'on allait travailler pour eux. L'idée, c'est effectivement depuis quand on paye les esclaves? Si quelqu'un a été réduit en esclavage, ben, il est esclave. Et alors aujourd'hui, en France et dans le monde entier, il y a effectivement des mouvements entiers de décolonisation où les esclaves réclament aux pays qui les ont réduits en esclavage, réclament des dédommagements. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne se faisait pas. Et peut-être que c'est juste de demander de quel droit est-ce qu'on a fait travailler. Si on dit que c'est juste, alors voilà, c'est la Torah, elle a établi que c'était juste de demander un dédommagement. Le problème, c'est que quand il a dit, il leur a dit, moi je me fiais aussi à la Torah, il s'est fié à la Torah dans leur version à eux, parce qu'on n'a jamais été 600 000 pendant 400 ans. D'abord, on a travaillé en Égypte que 210 ans, et encore pas tout ce temps-là, des esclaves, et on n'était pas tout de suite 600 000. Petit à petit, ça a grandi, on est devenu 600 000. Mais on n'était pas obligatoirement 600 000 pendant tout ce temps-là. Donc les chiffres sont des chiffres qui sont dans la Torah, c'est ce que l'autre a demandé. Alors tu demandes ça, ok, alors je vais te le donner. C'est juste que je vais mettre en face de ça ce que toi tu me dois, et donc tu m'en dois plus que ce que moi je te dois. Donc c'est très actuel ce problème-là, le problème du dédommagement des gens qu'on fait travailler comme esclaves. Traité dans la Torah ici. Pardon, le. Oui. Ça ne veut pas dire que. Non, le maître, il est nourri, logé, blanchi. En Égypte, a priori, ils ont été nourris, logés. Le logement et la nourriture, on peut discuter de la qualité, je ne sais pas. Mais bon, ils ont mangé. Et on ne paye pas le travail. Jusqu'à présent, l'idée qu'il faille travailler Il fallait payer l'esclave. Ce n'était pas une idée qui existait. Dans la Torah, on dit que un esclave, d'abord, un esclave au sens d'un goy qui est esclave, l'esclave toute sa vie, on ne le paye pas. On le prend en charge matériellement parce qu'il faut bien lui donner de quoi vivre pour qu'il puisse travailler. Un esclave hébreu, il y a plus. Parce que un esclave hébreu, déjà, il est un peu payé déjà, parce que s'il a une famille, la famille, elle vit aux frais du maître, de l'esclave, alors qu'elle ne travaille pas. Donc c'est déjà, voilà, il est complètement pris en charge et il travaille. C'est un esclave hébreu, mais c'est un statut tout à fait particulier parce que c'est un esclave pour 6 ans. Et ça fait spécial l'histoire des Béd Ivri.
Quand on parle d'esclaves dans l'Israël en Égypte, ce n'est pas la même définition que l'esclave hébreu et
Non,
l'esclave.
c'est pas comme un esclave hébreu, mais c'est comme un esclave cananéen. Oui, c'est la notion d'esclavage dans la version égyptienne, qui est, comme on l'a dit déjà, qui n'est probablement pas la même version que la version grecque ou autre. C'est pas non plus la version des Noirs qui travaillaient en Amérique. C'est pas la même chose que la Grèce. C'est pas la même chose. Chaque pays ou chaque civilisation a des notions d'esclavage. On dit aujourd'hui que les Chinois y réduisent les Ouïghours en esclavage. Bon, c'est encore une nouvelle façon de faire. Je ne sais pas quelles sont les conditions. Les Juifs dans les camps de concentration, ils étaient esclaves.
Alors, cette notion de dédommagement, elle est parallèle pour les femmes. Pourquoi elle apparaît alors qu'elle est prise par la Palestine par rapport à la notion de l'esclave dans la Torah, la notion de dédommagement, elle n'existe pas.
Elle n'existe pas parce que l'esclave, il a été acheté au marché aux esclaves en Arabie Saoudite, et voilà, il travaille.
Mais alors, par rapport aux esclaves égyptiens, ils ont été achetés, c'est pas un esclave
Et,
hébreu.
par contre, ils ont été réduits en esclavage et ils n'étaient pas, c'est pas les esclaves qu'on a achetés au marché, c'était des gens libres qu'on a réduits en esclavage. Et alors bon, vous direz que les esclaves, les gens qui étaient esclaves, Cananéens, par exemple, c'était des prisonniers de guerre. Et avec l'idée que, bon, tu m'as fait la guerre, j'aurais pu te tuer, je ne te tue pas, mais je te fais travailler. Et donc maintenant, Vayomer Moshe, Kohamar Hashem, Kachatzot Alaila, Ani Yotze Betoch Mitzrayim, Umet Kol Bechor Beretz Mitzrayim, Mipor Paro, Ayoshev Al Kiso, Ad Pror Hashifcha, Asher Achar Haim, Kol Bechor Behema. Donc, tous les premiers-nés, y compris ceux des esclaves, y compris le monde animal, tout ce qui était premier-né d'une quelconque manière, en Égypte, tout ça va mourir. Pourquoi les animaux meurent? Rachid dit parce que les animaux étaient adorés, c'était les idoles. Et quand Akadosh Baroukh fait payer un peuple, il fait payer aussi ses idoles.
Ou Hachem finit par détruire les
Oh, Hachem il sanctionne un peuple qui s'est globalement mal conduit. Alors, se pose le problème, par exemple, les gens qui ont dit à Paro qu'il faut céder, quelque part, eux, ils avaient compris. Pourquoi est-ce que il y avait les premiers-nés chez eux, ils vont aussi mourir. Pourquoi est-ce qu'ils vont mourir, ces premiers-nés-là? Ces gens-là, ils ont fait ce qu'il fallait. Alors, il faut montrer que tous ces gens-là étaient tous quand même impliqués dans l'esclavage des Bnei Israël. Possible qu'il y avait des gens qui voulaient faire tchouva. Et moi, est-ce que je vous ai pas raconté? Il y a un Chizkouni, un commentateur, un Rishon, qui dit la chose suivante. Quand Paro a décidé que les Bnei Israël devaient aller chercher la paille eux-mêmes, va chercher la paille. Alors c'est toute la famille qui devait y aller parce que sinon ils n'y arrivaient pas. Et donc ils se sont répandus dans tout le pays. Et le Frisconi dit que tous les gens, tous les Égyptiens, en ont profité pour leur faire du mal. Ils se sont fait taper dessus, etc., par les gens dans les campagnes, partout où ils allaient chercher de la paille, et les gens profitaient, et même les esclaves, et même tout le monde leur a tapé dessus. Et lui, il dit que c'est, en vérité, c'est Hachem qui a fait que Paro a décidé de leur demander d'aller chercher de la paille, parce qu'en vérité, Paro allait frapper toute l'Égypte, et il y a des gens qui allaient dire: mais c'est pas normal, pourquoi? Nous, on n'a rien fait. Alors, en vérité, ils étaient tous très contents de tout ce qui arrivait au peuple d'Israël. Ils se sont réjouis. Et semble-t-il, de se réjouir normalement, c'est déjà suffisant pour être sanctionné. Mais pour qu'ils ne puissent pas dire, nous, on n'a rien fait, Hachem a fait en sorte qu'ils fassent quelque chose. Comme ça, ils ne pourront pas dire, on n'a rien fait. Et donc, ça, c'est ce que dit le Chizkouni. C'est le seul que j'ai vu dire cela, mais c'est très important. C'est actuel aussi. Les gens à Gaza, ils disent tous, on n'a rien fait. Il y a des gens qui n'ont rien fait, les victimes civiles, etc., tout ça. Mais ces gens-là, d'abord, ils se sont tous réjouis. Ils ont tous voté à 70% pour le Hamas. Et il y en a quelques juifs qui ont essayé de s'enfuir. Ils ont été livrés par la population au Hamas. Bon, c'est une situation très, très compliquée parce que c'est vrai que les gens probablement tous travaillé pour le Hamas. Mais encore aujourd'hui, le Hamas est encore très, très, très puissant. Et si tu voulais manger à Gaza, ceux qui tenaient tout, les réfugiés, etc., tout ça, c'était noyauté complètement par le Hamas. Et donc, il y a probablement des gens qui ont adhéré au Hamas, même peut-être seulement formellement, mais pour avoir à manger, pour pas avoir de problème. Parce que les gens, le Hamas, si on n'était pas avec eux, ben, tu ne recevais rien. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que, des Israéliens qui disent que dans la masse de gens qui sont réfugiés là presque à la frontière là-bas, il y a énormément de gens du Hamas et toute l'aide humanitaire qui est donnée, c'est eux qui la distribuent. On leur donne à eux, en réalité, c'est eux les puissants. Et donc, si t'es pas Hamas, ne sois pas. Donc là, c'est la même chose. Le problème, c'est Donc, c'est difficile de dire que ces gens-là sont Hamas. Ils ont essayé d'avoir à manger. Donc, ils ont voté pour Hamas. Ils ont peut-être ils ont même fait des gestes pour se qualifier comme Hamasnik. Je veux dire, comment il faut les juger, ces gens-là? Il faut dire s'ils sont innocents. C'est normal qu'ils fassent. Ils essayent de survivre. Ils manipulent tout, mais ils sont tellement puissants que maintenant, ils ont pris le pouvoir. Le pouvoir est là. Quand les gens ont le pouvoir, dans tous les pays, les gens, ils essaient d'être en bon terme avec l'occupant, avec le même avec le pouvoir, surtout si ce pouvoir est totalitaire et dictatorial, etc. C'est compliqué. Alors, et comment c'était en Égypte? Alors, j'ai dit, le Frisconi dit, à cause de beaucoup, c'est Hachem qui a fait pour qu'il ne puisse pas le dire. Mais ça veut dire qu'en réalité, il méritait aussi d'être sanctionné. Même avant d'avoir frappé les. Voilà, on va s'arrêter là.